Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous inviter à... et je vais vous proposer des devoirs de vacances. Et pour les préparer, je vais déjà vous donner de la nourriture à vous mettre sous la dent. Je commence par le confit de canard, comme d'habitude. À propos des nanoparticules, miam, miam, des nanoparticules partout. Je suppose que vous savez ce que c'est que des nanoparticules, parce qu'on commence à en parler un peu partout, pas beaucoup, mais disons que ça fait un moment que les amis de Grenoble nous ont parlé de ça. Donc, l'article en question. Mieux que la malbouffe high-tech, bourrée de nanoparticules, ces micromatériaux de l'ordre du millionième de millimètre, sont utilisés comme super épaississants, stabilisants, colorants, liants, conservateurs, exhausteurs de goût. Le seul hic, c'est que l'on n'a pas la queue d'une idée sur la manière dont ces nano-ingrédients se comportent dans notre organisme. C'est pas tout à fait exact parce qu'on sait que ces nanoparticules traversent ce qui empêchait beaucoup de choses d'arriver dans notre cerveau. Ça traverse ces barrières naturelles. Parce que c'est tellement petit que ça passe à travers tout ça. C'est pourquoi depuis 7 mois, un règlement européen oblige les industriels à indiquer leur présence sur les étiquettes. L'ONG écologique Agir pour l'environnement est allée voir quels aliments vendus en grande surface étaient effectivement étiquetés. Résultat des courses, zéro. Pas un n'était étiqueté. L'ONG a alors fait analyser par un labo indépendant 4 produits suspects, entre guillemets. Bonne pioche pour les 4. Les biscuits chocolatés napolitains de Lu, les chewing-gums Malabar goût tutti-frutti, le mélange d'épices pour guacamole de la marque Carrefour et même la conserve de blanquette de veau de William Saura. Sont farcis, tout ça farci aux nanoparticules. Des ingrédients clandestins contenus dans 2 additifs, le E551, un anti-agglomérant, et le E171, qui est un colorant. Pour l'anecdote, ce dernier, de son petit nom T02, est classé cancérigène possible pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer. Fort de sa trouvaille, Agir pour l'environnement vient de saisir les ministres de la Santé et de la Consommation pour réclamer le retrait de ces 4 produits, mais aussi un moratoire sur les nanoparticules. Une chose est sûre, les industriels auront tout fait pour diluer la réglementation des nanos. D'abord, en obtenant que seules les particules de moins de 100 nanomètres soient considérées comme des nanomatériaux, alors que certains experts veulent englober toutes celles de moins de 1000 nanomètres. Ils ont aussi réussi à organiser l'opacité. En France, depuis 2013, les entreprises sont tenues de déclarer dans un registre des substances à l'état nanoparticulaire avec les quantités incorporées. Mais ce registre, R-Nano, est secret. Et la répression des fraudes, qui a la main dessus, reconnaît n'avoir jamais contrôlé par des analyses la véracité des dires des industriels. Preuve que le sujet gêne aux entournures. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments avait prudemment conclu en 2010 à propos des nanoparticules. Le risque ne peut pas être évalué, il ne peut donc pas être exclu. Quand on disait chez les Shaddocks, s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et tout de suite, je passe à un niveau beaucoup plus visible. C'est à propos de Notre-Dame-des-Landes. Vous savez qu'il va y avoir un référendum dimanche prochain, je crois, le 26. Et ce référendum a la curiosité de ne pas s'adresser à tous les Français, mais seulement à ceux de Loire-Atlantique, c'est-à-dire pas tout à fait 1 million de personnes. Donc, je vais vous lire un article du Canard enchaîné de Jean-Louis-Luc Porquet à propos d'un bouquin qui est sorti le 15 juin et qui s'appelle je vous dirai ça tout à l'heure, ah oui, Chronique de la zone libre de Notre-Dame-des-Landes. Je rentre à la Gaîté tout frigorifié de brume. Jolie phrase qui fait rêver. Le titre de l'article, c'est « Des mondes plus respirables ». Cette Gaîté est un des nombreux lieux dits de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La brume a l'habitude de se promener dans le bocage humide de la ZAD, tout comme l'auteur, Cosma Salé, c'est un pseudo, qui dans ses chroniques de la zone libre nous raconte ses années d'arpentage des ZAD de Notre-Dame-des-Landes au barrage du Testet, en passant par la forêt de Chambaran. Ce zadiste est un poète, un rêveur qui appartient à une génération qui n'a pour horizon que chômage et boulot précaire. Plutôt que de se morfondre entre deux pointages à Pôle emploi, il s'est fait, en compagnie de ses pères, arpenteur de désordre et tranquille, insoumis. Nous pratiquons l'art du déplacement de squat en squat, de campement autogéré, en lieu de résistance, de tribu en tribu. Il y a toujours quelque part, à portée de semelle, un endroit où trouver refuge, une zone où détrôner l'État. Il y a toujours un feu pour se réchauffer, une gamelle à partager, un lit où dormir, une cabane où s'abriter. Alors que s'approche ce référendum sur l'aéroport, ces chroniques tombent à pic pour nous rappeler ce qui est en jeu à Notre-Dame-des-Landes. Il ne s'agit pas seulement d'un choix technique sur l'utilité, la pertinence, le coût de cet aéroport, mais de deux visions du monde qui s'affrontent. D'un côté, ceux pour qui le monde de demain doit être toujours plus technicisé, avec toujours plus de trafic aérien, de vols internationaux, de compagnies low-cost offrant aux salariés des classes moyennes une semaine de tourisme à Saint-Domingue ou ailleurs, toujours plus de béton, de développement, de croissance, parce que ça fera des emplois. Alors là, j'ouvre une parenthèse parce que, une fois de plus, on nous promet des emplois, mais les emplois, notamment le plein emploi, ça n'existera plus et tous ces messieurs sont dans un délire qui refusent de voir la réalité en face. Le seul endroit où il pourrait y avoir un plein emploi, et ça justifie ce que je vous dis puisque c'est une émission agricole, sur les problèmes agricoles, il n'y a qu'à la terre où tout le monde pourra travailler et au moins produire sa nourriture, mais le gros empêchement, c'est le code du foncier qui est beaucoup trop restrictif, qui ne permet pas aux gens d'arriver à trouver de quoi travailler la terre. Mais enfin, tout ça finira par s'arranger aussi, du moment que l'État, dont je reparlerai à la fin de l'émission, l'État est en train de perdre tout crédit et il va bien falloir qu'on change de conception de ce qu'est la vie en communauté et au niveau d'une nation, sans parler de la vie entre les nations. De l'autre, ceux qui refusent cet aéroport et le monde qui va avec. D'où ils se savent déjà exclus, monde qui veut rentabiliser le moindre centimètre carré de prairie et de cerveau disponible. Que peuple foule solitaire et mouton numérique. Sur les bancs des collèges, on nous avait répété que nous étions chanceux, que les départs massifs à la retraite des baby-boomers nous garantissaient le plein emploi. Nous allions être à notre tour les acteurs d'une croissance partagée. Mais très vite, la crise s'aggravant chaque jour, nous avons compris que nous serions à jamais des survivants et que nos existences induiraient des pratiques de rescapés, des techniques de survie. Alors survivre, ça leur suffit, ça ne leur suffit pas. C'est vivre qu'ils veulent, vivre des aventures, de ces années de fêtes, d'errances, de constructions et de voyages. Je retiens l'étonnement et la joie. Je garde le goût des rencontres, le parfum de la magie, dit le poète zadiste, qui discerne chez ses pairs un goût pour les avant-postes et les regards tournés vers l'horizon, pour s'inventer des mondes plus respirables. Nul besoin pour eux d'embarquer à bord d'un long courrier pour les îles. Et là, je vous envoie une chanson de Ferrat, qui apparemment n'a pas grand-chose à voir avec ce que je viens de vous dire, mais c'est un rappel de ce qu'est l'histoire, et comme nous avons tous tendance à ne plus faire les rapports nécessaires entre ce qui se passe et l'histoire passée, donc je me permets de vous faire écouter ce texte de Ferrat.
Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures, Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine, allongés sur les rails, nous arrêtions les trains. Pour vous et vos pareils, nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Disions que la guerre était perdue d'avance, et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville chimine. Après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vint perpétré au Vietnam. Quand le canon se tait, peuvent continuer. Mais regardez-vous donc, un matin dans la glace, patron du Figaro, songez à Beaumarchais. Il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valet.
Alors, toujours dans l'esprit de cette émission d'aujourd'hui, à la rubrique Vie syndicale dans Campagne solidaire du mois de mai, je vous lis l'article. Le message sur la protection sociale n'a pas été transmis. Et là aussi, comme on est en train de nous grignoter notre protection sociale, nos acquis, il n'est peut-être pas inutile de rappeler un certain nombre de choses. Donc, la Confédération paysanne a tenu son Assemblée générale nationale à Montreuil les 20 et 21 avril. La première journée d'atelier sur le thème de la protection sociale agricole a été prolongée par une table ronde réunissant deux syndicalistes, un économiste et le président de la Mutualité sociale agricole. Une première pour le nouveau président de la Mutualité sociale agricole, Pascal Comery, venu participer à un débat dans le cadre de l'Assemblée générale de la Confédération paysanne, dont la première journée était dédiée aux questions sociales. Je défie quiconque de se faire soigner en régime libéralisé, s'exprime d'entrée l'éleveur Tourangeau, qui a été élu il y a un an à la présidence de la Caisse centrale. Mais les jeunes et les moins jeunes ne savent plus que ces grands acquis sociaux sont fragiles et peu défendus. Et d'ajouter, nous n'avons pas transmis le message de la protection sociale à nos enfants. La perspective d'une pension de retraite les fait sourire tellement ils ont entendu qu'ils n'en auraient pas. L'idéologie libérale dévastatrice fait son chemin. À celles et ceux qui cherchent des placements rémunérateurs pour leur retraite, il n'y a pas mieux que l'acquisition de points de RCO, de retraite complémentaire obligatoire dont la rentabilité est de 5%. Henri Sterdignac de l'Observatoire français des conjonctures économiques avance les causes de la contestation des régimes sociaux. Le capitalisme financier est devenu méchant et remet en cause notre modèle social car il faut faire des efforts de compétitivité. Parallèlement à l'austérité budgétaire, il veut des réformes structurelles sur l'âge de la retraite et remboursement maladie pour réduire des cotisations sociales. Et pourtant, ajoute l'économiste, la protection sociale est un facteur de cohésion et d'efficacité sociétale parce que la population a besoin de filets de sécurité. Cette protection sociale va de l'éducation à la santé, la retraite et la solidarité, mais elle est menacée par l'offensive du privé pour vendre ses complémentaires, pourtant moins redistributrices. On nous appâte avec un rapport de 5% de ces retraites, mais en fait, ça profitera à ceux qui ont pu le faire, et puis les autres, il y aura moins de redistribution. Notre combat est de ne cesser de dire aux plus jeunes que notre système de protection va continuer. Verveine Angéli, secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire, insiste sur cette globalisation qui a généralisé le dumping et mis en concurrence les salaires et les protections sociales au niveau planétaire. Mais pour elle, le système de protection sociale tient encore bon malgré ses imperfections liées aux égoïsmes professionnels. Cela a joué comme un filet de sécurité pendant la crise. La syndicaliste regrette que les salariés aient de moins en moins prise sur les décisions, affirmant que le système doit continuer à reposer sur les cotisations mais qu'il faut élargir l'assiette par la taxation des produits. Je rappelle à ce sujet que les revenus financiers des dividendes ne sont pas taxés, n'ont pas de cotisation sociale à payer, car s'ils en avaient, eh bien, la sécurité sociale n'aurait absolument aucun problème à pouvoir rembourser. Je rappelle aussi que le système de la sécurité sociale Alsace-Lorraine qui a hérité et on n'a pas osé y toucher quand l'Alsace-Lorraine est redevenue française, elle a hérité d'un système qui venait d'Allemagne. Et cette sécurité sociale, donc Alsace-Lorraine, rembourse les frais à 90% et elle n'est pas en déséquilibre financier. Donc, c'est que vraiment, il y a un gros problème dans notre sécurité sociale et on est en train de nous endormir en nous racontant qu'elle est en faillite et qu'il faut diminuer les remboursements. Battons-nous pour défendre les acquis que nos arrière-grands-parents ont lutté pour, se sont battus pour nous obtenir. Je continue. Paysans en Loire-Atlantique et responsable de la commission sociale de la Confédération paysanne, Patrick Baron, rappelle que notre profession n'a jamais fait la course en tête sur les questions sociales, malgré quelques succès de la Confédération paysanne. Notre combat gagné sur le GAEC entre époux a été, par exemple, une grande avancée et une reconnaissance des actifs et des actives. Les GAEC, c'est un groupe d'activités économiques en commun. C'est donc une disposition spéciale à l'agriculture. Et apparemment, il n'était pas possible, entre époux, de créer un GAEC. Et donc, ça a été une avancée et une reconnaissance des actifs et des actives. Mais au gré des crises, les décisions politiques affaiblissent les maigres acquis, alors que l'activité agricole assume les salaires et les cotisations salariales dans ses coûts. Et d'envoyer ce message à celles et ceux qui croient qu'il n'est pas besoin de se battre pour avoir une retraite, car il y a le minimum vieillesse, qu'ils sachent que celui-ci n'a pas plus de pérennité que notre système de retraite. Le minimum vieillesse est aujourd'hui appelé allocation de solidarité aux personnes âgées. Je continue. À l'issue de cette table ronde, Laurent Pinatel, porte-parole national de la Confédération paysanne, reprend une parole d'ancien, déclare que si une bonne protection sociale, avec notamment les droits à la retraite, à parité avec les autres corps sociaux, avait été acquise, elle serait aujourd'hui intégrée dans nos coûts de production. Et de rappeler que trop de transmissions de fermes se négocient au prix fort en compensation des maigres pensions de retraite attendues. Que de responsabilités chez les responsables agricoles qui ont combattu le tous dans la grande sécu. Oui, parce que les dirigeants agricoles se sont battus longtemps pour que, d'abord, pour avoir une sécu sociale agricole, et puis après, ils n'ont jamais voulu mélanger la sécu sociale agricole avec la sécu générale. Donc, voilà, on va envoyer l'état des lieux de Lavilliers.
Je vois des grandes Tchernobyl en puissance, je vois des animaux clonés, des millions de tonnes de pétrole en souffrance sur des super tankers rouillés. Tout en régressant, on se dit qu'on avance, on accélère, on tourne en rond. Les super productions font la tendance, mais c'est toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois l'énorme appétit de matière, cette montagne de déchets, des sous-marins coulés, mais nucléaires, ça fait toujours un drôle d'effet. Qui va manger le gâteau d'anniversaire? Pas celui qui paye l'addition. S'il reste des miettes pour l'œuvre humanitaire, ce sera toujours la même chanson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Je vois des guerres tribales comme des cancers qui rongent des pays déchirés. La propagande aveugle, totalitaire et l'addition qu'on va payer. Je vois des océans couleur d'encre, je vois des poissons irradiés. Je vois des canicules hallucinantes, toutes ces villes inondées. Que la nature assure, les animaux s'en sortent. Que le point de rupture ne soit pas l'être mort. Après nous le déluge, bombardé de neutrons. L'univers qui nous juge, nous donne le frisson. Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest, rusé du Nord, usé du Sud. Vers quelle certitude, vers quelle latitude, vers quelle lassitude, vers quelle certitude allez-vous? Cassé de l'Est, stressé de l'Ouest.
Et oui, les devoirs de vacances que je vous propose ne sont pas très réjouissants, mais il est important que nous réfléchissions, que nous soyons prêts à nous engager, hein, parce que Stéphane Hessel avait dit « indignez-vous », mais il faut aller plus loin. Et il a aussi dit « engagez-vous ». Parce que tout est en train de foutre le camp dans la mauvaise direction. Je voudrais juste, pour terminer cette émission, vous parler d'un petit bouquin qui vient de ressortir. C'est « Sur l'État », cours au Collège de France de Pierre Bourdieu. C'est reparu en édition de poche à Point Seuil en 2015. Voici ce qu'il dit concernant l'État. Et quand on voit la façon dont nos politiciens français à la tête de l'État essayent de nous amener à accepter un état d'urgence qui se prolonge et puis de moins en moins de liberté. Donc voilà, ce sera peut-être aussi utile de repenser à ce que pouvait dire Bourdieu. Pour Bourdieu, l'État est un objet presque impensable, puisque notre pensée même est imprégnée des catégories de l'État, de ses normes. Il met en garde contre la facilité de certaines théories de l'État qui en font un instrument de répression ou de progrès inconditionnel, sans s'interroger sur sa nature et son fonctionnement. Pour éviter ces travers, Pierre Bourdieu propose une approche socio-historique de la genèse de l'État, du Moyen-Âge à la Révolution française, jusqu'à la construction de l'État-providence et ses remises en cause actuelles, l'occasion de s'interroger sur le fonctionnement du champ du pouvoir et sur les mécanismes de la domination d'État. Cette réflexion est plus que jamais utile dans une période de transformation profonde vers à la fois moins d'État social, et puces d'État néolibérales.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il faisait vivre la commune en écoutant chanter Clément. C'était des ferronniers aux enseignes fragiles, c'était des menuisiers aux 100 coups de rabot. Pour défendre Paris, ils se firent mobiles, c'était des forgerons devenus des moblots. Il y a 100 ans, comme un commune, comme artisan et ouvrier, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme ouvrier et artisan, ils se battaient pour la commune en écoutant chanter Clément. Devenus des soldats aux consciences civiles, c'étaient des fédérés qui plantaient un drapeau, disputant l'avenir au pavé de la ville. C'étaient des forgerons devenus des héros. Il y a 100 ans, comme un commune, comme l'espoir mis au charnier, ils voyaient mourir la commune. Ah, laissez-moi chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune, comme une étoile au firmament, il s'éteignait pour la commune. Écoute bien chanter Clément.
Et oui, ils ont vite fait disparaître à la commune parce que ça les gênait pas beaucoup trop. C'est comme ils ont fait avec l'université de Vincennes qui a duré 10 ans. Et qu'on a rasé, on a planté des arbres pour surtout qu'il ne reste absolument rien de ce qui s'est passé pendant 10 ans, de 70 à 80, à Vincennes. Et je vous promets que la semaine prochaine et la dernière semaine d'émission avant les vacances, je vous apporterai des choses qui vous réjouiront et qui vous permettront de faire vos devoirs de vacances avec le sourire et avec l'espérance chevillée à chacune de nos cellules. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à la même heure sur FM+, en vous souhaitant une très bonne semaine. Merci de vous.
Il y a 100 ans, comme un commune, comme un espoir mis en chantier, il se levait pour la commune en écoutant chanter Potier. Il y a 100 ans, comme un commune.